l'émission Écoforum, l'émission qui donne la parole aux acteurs de l'environnement et de la solidarité. Nous sommes en direct sur la fréquence 88.4 de Radio Galère. L'émission sera rediffusée demain jeudi 4 novembre de 9h à 10h. Il est possible d'interagir en direct en nous contactant au 04 91 08 28 10. Je suis Jade, en compagnie de Marin, nouvel arrivant au sein de l'émission, et nous recevons ce soir, pour une seconde fois, Unicité, avec Victoire, qui est coordinatrice d'équipe et de projet. Bonsoir Victoire.
Bonsoir.
Alors Victoire, peux-tu un petit peu nous présenter ce qu'est Unicité ?
Alors oui, tout à fait. Donc très rapidement, Unicité, c'est une association qui a maintenant 27 ans. D'années d'existence, puisque donc en fait c'est l'histoire de trois étudiantes d'une école de commerce à Paris qui ont rencontré une américaine qui venait d'une grande université, on va pas citer, et du coup elle leur faisait une conférence en leur expliquant qu'aux États-Unis, un quartier de New York précisément, existait en fait une association qui permettait à des jeunes, soit des jeunes qui vont faire un peu l'équivalent d'une année de césure, ou des jeunes juste qui galèrent, qui traînent un peu dans leur quartier, etc., de leur proposer une aventure d'engagement et surtout avec cette dynamique d'équipe et de mixité. Donc c'était une proposition pour eux de s'engager et aussi de pouvoir œuvrer ensemble, alors que ça se trouve, ils auraient... sans cette expérience-là, ils ne se seraient peut-être jamais croisés, ou ils auront toujours eu des préjugés entre eux. Et en fait, ces trois Françaises-là se sont dit « Mais attends, le concept est génial !» Et du coup, elles se sont dit « On va faire le même concept en France. » Donc, il y a 27 ans, ces trois étudiantes-là, elles ont motivé 20 jeunes. À l'époque, c'était en Île-de-France que ça a commencé. Donc, 27 ans, on commence avec 20 jeunes. 27 ans plus tard, c'est à peu près 7000 jeunes par an sur Unicité qui s'engagent dans le cadre d'un service civique. Alors pour l'histoire, donc Unicité est l'association pionnière du service civique, puisque Unicité existe depuis 27 ans, mais le dispositif du service civique, lui, il existe depuis 2010, donc il a 12 ans. Donc ce dispositif permet à des jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans en situation de handicap, de faire une aventure, nous on appelle ça une aventure, un engagement citoyen d'un minimum de 6 mois, allant jusqu'à un an. Et c'est à peu près du minimum 12 heures jusqu'à 35 heures par semaine. Donc, en fonction des services civiques, ça peut être compatible avec une vie étudiante, avec un travail. Et l'idée, c'est de s'engager auprès d'une structure ou des dispositifs comme les nôtres, où nous, en fait, notre spécialité, nous, on n'est pas spécialiste forcément de thématiques associatives. On est vraiment, notre objet social, c'est de permettre à la jeunesse engagée de pouvoir réaliser des missions d'intérêt général. Et donc du coup, ça se traduit par différentes formes d'engagement. Ça peut être lié à l'environnement, ça peut être lié aux questions citoyennes, ça peut être lié à la fracture numérique, à la lutte contre l'isolement. Et ce qui fait un peu toute la force et la richesse d'Unicité, c'est que on s'en fiche de ton CV, on s'en fiche de ton background un peu, du moment que nos trois critères, c'est motivation, le vouloir le faire en équipe et tout ce qui est savoir-être. Donc, tu as vraiment envie de te donner à 1500% pour les autres. Voilà.
Merci Victoire pour cette introduction qui est déjà assez complète de ce que fait Unicité. Ce que je te propose pour présenter un peu cette aventure à nos auditeurs et à nos auditrices, c'est qu'on ait un petit fil rouge au cours
Tout à fait.
De cette émission. Donc dans un premier temps, comme tu l'as déjà commencé, on va pouvoir présenter ce que c'est qu'Unicité de façon générale. Ensuite, on parlera peut-être un peu plus d'environnement, puisque c'est le sujet un peu central de l'émission d'Ecoforum sur Radio Galère. Puis des autres actions, parce qu'il y en a d'autres avec Unicité. Et enfin, comment est-ce qu'on peut devenir un volontaire ou une volontaire ? Puisque j'imagine qu'il y a des personnes qui, derrière leur poste, sont en train de nous écouter et se disent que pourquoi pas eux. Donc là, tu venais de parler un petit peu d'Unicité dans son ensemble. Mm. Est-ce que tu peux nous expliquer... alors, tu nous as beaucoup dit pourquoi, quelle était un peu la jeunesse du projet, ce qu'un jeune va pouvoir trouver en faisant une aventure, un service civique avec Unicité.
Tout dépend de... Alors moi, j'ai envie de te répondre oui, c'est l'idée. Après, comme on dit à chaque jeune qui participe à un engagement de service civique chez nous, ne soyez pas consommateur de votre service civique, soyez acteur de cela. Nous, on cadre, on propose des outils, on propose une façon de faire. Après, on n'est pas des magiciens et des magiciennes. Magicienne, j'insiste, parce qu'à Marseille, on n'est que des femmes, à être en tout cas accompagnées 120 jeunes. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment de laisser tomber ses préjugés, de se donner à 100% dans cette aventure, de faire confiance aussi, de se laisser porter. Et en fonction, peu importe les missions que tu réalises, on ouvre aussi à une pluralité d'acteurs, à un réseau, que ça soit associatif, institutionnel. On est aussi soutenu par la région, par les collectivités, etc. Donc on travaille avec quand même une vraie pluralité d'acteurs. Et c'est aussi une aventure, on le dit aux volontaires quand ils arrivent. Là, cette interview, ça correspond... aujourd'hui, on était encore en intégration avec certains jeunes. On leur disait, ça peut être aussi votre service civique. Vous venez peut-être avec vous vous dites, voilà, service civique, ça peut représenter une pause où je ne sais pas quoi faire et je fais un service civique. Et peut-être que vous avez prévu tout un plan après, reprendre ses études, entamer une formation, ou d'autres ne le savent pas du tout. Et peut-être que si vous vous laissez porter, peut-être que ça peut complètement changer le chemin que vous étiez tracé. Et c'est ce qu'on espère, ou conforter dans votre choix. Et en tout cas, c'est ce qu'on espère. Mais il faut être acteur de ça, pas consommateur.
Oui, l'initiative, elle est intéressante pour les jeunes, parce que la plupart du temps, c'est vrai que c'est difficile de savoir ce qu'on veut faire. Et donc, l'avantage, c'est d'être immergé, de découvrir finalement un métier ou un environnement de travail. Donc, c'est ce que vous proposez au travers de ces missions ou...
Alors,
dans l'accompagnement, parce que c'est peut-être des jeunes qui n'ont jamais travaillé, parce que là, vous dites que quand même, y a certains jeunes qui peuvent déjà démarrer une mission en service civique. Donc du coup, comment ça se passe pour ces personnes qui n'ont jamais travaillé de leur vie ?
Alors, ta remarque est très intéressante. Donc nous, on n'est pas du tout... Ça, c'est un métier. On ne prétend pas du tout à être un organisme d'insertion professionnelle. On n'est pas du tout là-dedans. On ne cherche pas à remettre dans l'emploi, etc. On propose une aventure d'engagement citoyen. Mais après, sur le terrain, du coup, en fonction des programmes, on en reparlera plus tard, des programmes où sont les volontaires. Par exemple, si tu es sur un programme en lien avec l'environnement, par exemple, tu vas être amené à rencontrer des associations, mais aussi, alors liées à l'environnement ou pas, on est aussi beaucoup dans des associations de quartier, donc tu vas rencontrer peut-être différentes formes de métiers, ça peut être les métiers du social, le métier associatif en lui-même, tu peux être amené à travailler avec des écoles, donc tu pourras découvrir des professions en lien avec l'éducation nationale, et ensuite, vu que les volontaires sont acteurs de leur service civique, ils entretiennent des liens privilégié avec ces partenaires-là. Et qui sait, après, ça peut être un contact comme ça. Et puis, l'année d'après, 2 ans après, 3 ans après, quand ils poursuivent un peu leur cheminement professionnel ou de formation, ils se disent « Ah, mais attends, j'ai rencontré cette personne pendant mon service civique. » Et ça fait des liens comme ça. L'année dernière, moi, j'ai une jeune, elle se prédestinait à reprendre ses études en master ressources humaines. Elle était amenée à faire des actions dans une école. Et elle était en partenariat avec une professeure avec des élèves avec un dispositif particulier. Et en fait, il y a eu un coup de cœur professionnel entre ces deux personnes. Et aujourd'hui, cette jeune, elle est assistante éducative auprès de cette professeure dans cette classe-là. Et elle a pour vocation maintenant de travailler dans l'éducation nationale. Donc,
super. Donc en fait, ça peut pousser aussi
ça
des
peut
voix.
Pousser. Et pour aussi rebondir sur ce que tu disais, donc... Service civique, 16-25, 30 ans en situation de handicap. Du coup, ça brasse quand même quasiment 15 ans. Donc, il y a des gros écarts d'âge. Donc, sur cette diversité-là, on n'en est pas tous au même point. Donc, il y en a, ça peut représenter une année de césure quand tu es étudiant. Et on a des décrocheurs scolaires. On a des jeunes, ça fait 1 an, 2 ans avec ce contexte sanitaire aussi là, qui a changé la donne sur la façon d'étudier ce genre de choses, qui sont un peu dans le flou et qui, cherchent un peu leur voie. D'autres qui ont vraiment envie de faire un service civique. On travaille aussi avec un réseau comme les missions locales, les garanties jeunes, ce genre de choses qui orientent aussi. Donc, on a différentes voies où les jeunes qui arrivent chez nous, ils viennent par différentes voies. Ça peut être la mission locale, ça peut être ton grand frère, ton cousin, ta cousine, ta mère qui t'a parlé du service civique. Et du coup, ça englobe toute cette diversité-là. Et c'est aussi, pour des volontaires, déconstruire pas mal de choses et de se dire, voilà, je vais être partenaire avec quelqu'un qui a peut-être 10 ans de plus que moi, ou je vais être partenaire avec quelqu'un qui va être 10 ans de moins que moi. Et ça, c'est aussi une vraie leçon de faire ensemble et de vivre ensemble.
Oui, complètement. Et qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai coupé le fil, Marin. Tu veux intervenir ? Là, j'ai une pensée, puis je trouvais ça intéressant ce que tu venais de dire.
Bah, tu la reprendras après.
Oui.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, chacun peut arriver en mission avec son propre parcours, finalement, et se retrouver ensemble sur la même mission pour ensuite se reséparer ou se retrouver plus tard. Alors là, c'est beau dit comme ça. Est-ce que tu peux nous donner... un exemple d'une mission un peu concrète, et on va commencer sur l'environnement, après on parlera des autres, pour que nos auditeurs puissent vraiment se dire « Ah oui, c'est ça que ça signifie ».
Ok. Alors concrètement, s'engager dans des missions de service civique à une cité, pour compléter ce que dit Marin, on a une mission qui s'appelle Médiateur. Donc c'est un programme, ça fait des années qu'il existe sur le territoire de Marseille. Et en fait, c'est 16 jeunes qui sont répartis en 4 équipes sur 4 territoires différents de Marseille. Et en fait, ils ont un QG dans chaque quartier. Donc ça peut être un centre social, ça peut être une association particulière. Et l'idée, c'est de sensibiliser à l'environnement par différents biais. Et surtout, il y a le levier lien social. Donc du coup, on n'est pas du tout dans une prétention de dire que les volontaires vont sauver le quartier, vont faire en sorte que tout le monde se balade en vélo ou ce genre de choses. On n'est pas du tout là-dedans. Mais du coup, ça peut être si tu te concentres sur les enfants, si tu te concentres sur des animations de rue, si tu te concentres sur des animations liées avec les mamans du quartier, par exemple. En s'adaptant à la réalité du territoire, sensibiliser sur des éco-gestes qui peuvent aussi avoir un impact sur une précarité économique aussi, par exemple. Je ne sais pas, ça peut être, ça se traduit par un atelier de rue où, par exemple, je vais mettre deux carafes d'eau. Une carafe d'eau où ça va contenir une bouteille, enfin de l'eau d'une célèbre marque qui fait des packs d'eau en plastique, et l'eau du robinet. Et l'idée, c'est de ne pas mettre d'étiquette sur ces carafes. On invite les passants à goûter ces eaux-là et dire, à votre avis, quelle est l'eau en bouteille, quelle est l'eau du robinet. Et souvent, ils n'arrivent pas à dissocier les deux ou ils se trompent. Et c'est du coup d'inciter et dire, que tu bois l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, ça revient au même. Et au final, sur ta facture, sur tes courses, ça représente peut-être une centaine d'euros d'économie si tu consommes l'eau du robinet. Ça peut être, par exemple, l'année dernière a été organisé des ateliers avec des femmes d'un quartier. Et du coup, c'était des ateliers un peu... comment réaliser sa lessive, comment réaliser des petits cosmétiques comme ça, mais tout bête, hein, genre faire un gommage, tu prends du miel, tu peux faire ça avec, avec du café, etc. Et, mais sans prendre de haut, sans révolutionner, mais c'est comme l'histoire du colibri, c'est goutte par goutte, on arrive à faire changer les choses, et c'est comme ça que ça se passe.
Pour continuer sur ce que tu dis, et sur ces exemples-là, au début, on réfléchissait sur ce que le service civique pouvait apporter pour les volontaires. Est-ce que tu peux nous dire la façon dont ces projets sont accueillis par les habitants ?
Tout à fait. Alors, je vais d'abord faire une première partie là-dessus, puis après, je vais te renvoyer la balle, Marin, parce que tu ne l'as pas dit. Mais Marin, il a été volontaire en service civique sur le programme Médiateur. Donc, je pense que rien de plus impactant que le témoignage d'un ancien volontaire sur les actions concrètes qui peuvent être réalisées. Comment c'est accueilli ? C'est bien accueilli parce que au-delà de l'aspect... Alors là, c'est par mon prisme que je dis ça. Donc c'est l'environnement, certes, mais il y a aussi, et surtout, il ne faut pas l'oublier, c'est le lien social qui est aussi important, mais tout aussi important que l'environnement. Et du coup, on prend dans un certain prisme qui fait que ce n'est pas du tout pris pour quelque chose de pédant ou quoi que ce soit, puisqu'on veut travailler avec les gens du quartier et avec des assos, on prétend pas, on n'arrive pas avec nos gros sabots en mode poussez-vous de là, voilà.
Oui, on va vous apprendre la vie. Non, c'est juste de comprendre un peu l'écosystème. Exactement. Et après vous apporter des petites solutions, totalement. Sensibilisation.
Exactement. Donc, et je reviens à ça, c'est que chaque team de volontaires dans ces quatre quartiers-là à Marseille, ils ont un QG. Et ce QG, c'est représenté par une association. Une association qui est là depuis des années dans le quartier. Souvent, ça peut être des gens du quartier. Et du coup, il y a une vraie réciprocité par rapport à ça. Et du coup, Marin peut bien illustrer divers exemples sur ce que tu as pu faire l'année dernière.
Ouais. Alors du coup, j'explique qu'il va falloir faire un peu de gymnastique intellectuelle pour ceux qui nous écoutent. Parce que là, j'arrête 5 minutes d'être l'intervieweur pour être quelqu'un qui va faire un retour d'expérience avant de reprendre ma casquette de celui qui pose les questions. Donc effectivement, l'année dernière, j'étais en mission avec l'équipe médiataire donc, de l'environnement dans le quartier de Félix Piat. Et il s'agissait de parler de cette sensibilisation à l'environnement dans un quartier qui est assez populaire et qui a de nombreuses problématiques à gérer, notamment sociales. Et ce qui est effectivement intéressant, c'est que si on parle d'environnement ou d'écologie, ce n'est pas forcément des sujets qui parlent quand on les aborde avec ces termes-là. Si on dit il faut sauver la planète, il faut réduire notre empreinte carbone, etc., c'est trop abstrait, c'est trop loin.
Et puis c'est très lourd aussi de porter cette charge-là.
Ouais, c'est très lourd.
Avec ce bagage-là, bon.
Surtout quand on a d'autres priorités à gérer avant. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que ces priorités qu'il faut gérer avant peuvent être gérées avec un prisme respectueux de l'environnement, où en fait, tout l'intérêt est d'essayer de trouver une forme d'harmonie dans le fait de pouvoir se nourrir mieux. Et donc, se nourrir mieux, ça peut impliquer d'avoir moins de viande et des aliments qui sont de meilleure qualité, produits de saison, pas loin. Donc là, on peut être dans une logique... environnemental. En plus, si on réduit la quantité de viande, ça peut réduire la facture. Donc ça, c'est intéressant. Un autre aspect, du coup, c'est cette question de facture, parce que c'est quelque chose de très important, où on va dire, mais moi, c'est loin, il faut d'abord que j'ai un emploi, etc. On peut réfléchir à comment est-ce qu'on peut réduire cette facture par des petits gestes sur la consommation d'électricité, la consommation de l'eau, la consommation alimentaire. Savoir ce qu'on peut proposer comme activité professionnelle dans le quartier. Est-ce que, par exemple, je peux proposer mes services à un centre social ? Est-ce que je peux proposer mes services pour m'occuper des personnes âgées du quartier ? Est-ce que je peux proposer des activités liées à la culture, liées au sport, au fait de créer un jardin partagé ? Chacun a sa place à trouver. Il y en a pour tous les goûts. Et donc là aussi, on arrive sur une question d'harmonie. On ne parle pas d'environnement ou d'écologie, mais ça revient un petit peu au même. Et voilà, et donc en fait, c'est trouver l'harmonie. Et donc nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a voulu faire une grande fresque du quartier idéal de Félix Piat. Donc on est allé toquer aux portes des habitants pour leur demander ce qu'ils voulaient. On s'est rendu compte aussi quels étaient les discours qui marchaient, quels étaient ceux qui ne marchaient pas, écouter ce qu'ils avaient raconté. Moi, je me suis pris des claques et c'était tant mieux, j'étais venu pour ça.
Alors c'était quoi ces claques ? C'était des claques de retour de voisinage ou voilà, de personnes qui n'ont pas forcément bien accepté la venue comme ça d'une personne autre du quartier, c'était...
Ouais, c'était la claque de faire avec et non pas de dire voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Déjà, ça marche pas, on va pas m'écouter. Et puis en plus, c'est pas forcément la meilleure solution. Après, il y a aussi la claque de trouver la façon de parler et d'être en communication et en lien avec l'autre. Pour qu'on se dise, ok, là, on va faire quelque chose d'ensemble et pas juste se dire, ok, c'est quelqu'un pas du quartier, justement, qui n'a pas les mêmes codes sociaux, qui ne vient pas du même endroit que moi, donc c'est un étranger à mes yeux, je suis un étranger au sien et on vit nos vies sans qu'on communique. Donc ça, c'était très intéressant, cette question du lien social.
Et justement, au niveau de l'accompagnement, quand on est jeune ou moins jeune, pour ces questions-là, du coup, on est entouré. Comment ça se passe quand on intervient comme ça dans des quartiers
Tu veux dire les jeunes auprès des bénéficiaires
Alors, plutôt les jeunes, pour intervenir, oui. Est-ce qu'ils ont du management? Est-ce qu'ils sont accompagnés aussi? Comment ça se passe dans ces missions la formation, ce genre de choses, ça doit être différent d'une mission à l'autre de toute façon.
Tout à fait. Alors du coup, en fonction des thématiques, bah, par exemple, on va reprendre Médiataire. Médiataire, on s'entoure aussi de partenaires, que ça soit opérationnel ou financier. Et du coup, parce que chaque programme a des... Enfin voilà, le nerf de la guerre dans l'associatif, c'est l'argent. On n'est pas des hypocrites.
Ça, on en parle chaque semaine.
Et pas que dans l'associatif.
Et pas que dans l'associatif, mais voilà. Donc du coup, en fonction des partenariats financiers, on a en fait, ce qu'on propose aux volontaires et aussi aux financeurs qui nous permettent aussi de réaliser ça auprès des jeunes, c'est une garantie, vu que c'est pas, on n'est pas dans une expertise. En fait, la jeunesse, c'est un levier en quantité, parce que voilà, c'est beaucoup de jeunes, mais aussi peut-être qu'ils ne sont pas qualifiés, mais aussi l'idée, c'est d'être en qualité aussi, et ça marche. Du coup, ils ont des heures de formation, des volumes de formation en début ou pendant leur service civique. Donc, sur l'environnement, par exemple, ça peut être, je ne sais pas si tu veux en parler, Marin, des formations que tu as pu avoir très rapidement, des acteurs que tu as pu rencontrer.
Oui. Alors, pour ce qui concerne l'environnement, parce qu'on en a eu différentes, des formations, on en a eu une sur la gestion de l'eau avec les Eaux de Marseille. On en a eu une sur l'électricité avec EDF. Et ensuite, on a été formés entre nous sur la question du tri des déchets. Et pour rebondir sur ce que tu disais, par exemple, j'avais une collègue de mon équipe qui a trouvé un emploi chez EDF après cette formation. Alors, le lien ne s'est pas fait immédiatement pendant la formation, mais ça a été une première porte ouverte pour, par la suite, trouver un emploi. Et cette fille... Enfin, cette collègue venait d'un des quartiers dans lesquels, c'était pas celui dans lequel on était en intervention, mais c'était un quartier voisin, et donc a pu trouver un emploi. Et donc là, typiquement, on arrive sur le cas où Unicité est un peu un relais, un passeur pour que les jeunes qui s'engagent puissent ensuite trouver quelque chose qui leur plaise et qui soit en plus bénéfique à la société.
Ben oui, tout à fait. Et en plus, c'est ça, c'est que ça développe du réseau. Donc, par la suite, si la personne, elle est, on va dire, en alerte sur les personnes qu'elle rencontre, elle peut par la suite trouver un emploi en lien avec sa mission ou pas d'ailleurs. Mais on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même important de développer du réseau professionnel, en fait. Hein. Donc, ça, c'est chouette si Unicité développe ça. Pour revenir justement sur les missions et notamment, plutôt sur les personnes qui sont, qu'on va retrouver chez Unicité, donc tu parlais des personnes en situation de handicap. Je trouve que c'est une question intéressante parce qu'on n'en parle pas forcément beaucoup au sein de l'émission. Ça représente à peu près, tu n'as peut-être pas les chiffres là, mais ça correspond à un nombre important de jeunes, plus ou moins jeunes.
Alors ce qu'on va considérer, je suis pas langue de bois, donc voilà, on va parler en termes de cadre législatif. Depuis la loi 2005, c'est plutôt le secteur de l'emploi, même si on n'est pas du tout dans l'emploi, on n'est pas du tout dans l'emploi déguisé ou quoi que ce soit, c'est un service civique qui est accessible pour tous et par tous. On s'en tient un peu au code du travail. En fait, l'idéal de notre effectif de volontaires en situation de handicap, c'est 6%.
6%, ouais, la masse salariale. Après, entreprise, mais du coup, là, c'est dans le cadre...
qu'on essaye de s'appliquer. Après, il y a, par exemple, on a des formations handicap qu'on donne aux volontaires. Souvent, l'information qui choque un peu les volontaires quand on leur dit 80% des formes de handicap ne se voient pas à l'œil comme ça. Et du coup, en fait, on a donc dans ces 6%, et considéré dans ces 6%, c'est un handicap qui est dit déclaré. Déclaré, du coup, c'est auprès de ce qu'on appelle la MDPH. Je vais essayer ce soir de pas trop parler en abréviation, c'est un peu dans l'associatif, on adore faire ça.
C'est la maison départementale.
C'est la maison départementale du handicap, donc c'est une certification en fait auprès de la MDPH qui te dit tu es en situation de handicap, donc ça peut permettre un aménagement spécifique dans les horaires du travail, dans les aménagements parce que tu as des impératifs médicaux, je sais pas, peut-être de l'hôpital de jour, de choses comme ça, et donc pour que ça soit compatible avec ton travail ou ton volontariat, faut que l'employeur ou le service civique s'adapte. Il y a ça. Donc ça, c'est reconnaissance handicap, où là, du coup, ça permet aux jeunes de faire un service civique jusqu'à ses 30 ans. Après, il y a aussi une réalité qui est une réalité de terrain. On a des formes de handicap qui ne sont pas forcément déclarées à la MDPH. Déjà parce que, en tant que citoyen, tu ne connais pas tous tes droits. Il y a aussi la honte. Enfin, la honte ou le... Enfin, voilà...
La peur de ne pas être forcément pris.
Exactement, voilà. Ou d'être écrit en énorme « je suis en situation de handicap ». Il y a aussi ce truc qui est hyper important dans cette dynamique, d'équipe qu'on cherche à créer à Unicité. Quand on a un jeune en situation de handicap, dans nos entretiens, c'est notre première question. Et on dit, écoute, l'idée, c'est pas de te pointer du doigt, c'est vraiment d'adapter et surtout d'être dans un accompagnement aussi. Est-ce que tu serais prêt à en parler? Est-ce que, pour dépasser ce truc aussi, je suis pas qu'en situation de handicap, je suis pas une victime. Une personne en situation de handicap, ça peut être... quelqu'un de génial, comme ça peut être quelqu'un de moins génial. C'est pas parce que t'es en situation de handicap que ça pose un statut particulier ou ça pose un tempérament particulier. Donc, on pousse vachement au dialogue là-dessus. Et voilà, alors, je me perds un peu en explication, mais par exemple, en France, une dyslexie, faire des crises d'épilepsie peut être considéré comme une situation de handicap.
Donc, oui, tout à fait. Même
on a nos chiffres
doudou,
officiels,
hein.
on a ce truc un peu plus officieux. Et si on mélange les deux, en vrai, c'est quand même un accompagnement qui est important. Ouais. Et ce ne sera jamais un frein dans le fait de vouloir faire ou pouvoir faire un service civique.
Ok. Et donc, du coup, après, on ne retrouve pas de mission particulière. Voilà, y a pas de, là, tu n'as pas d'exemple. Si on a un auditeur qui est en situation de handicap et qui voudrait intervenir chez vous, faire une mission chez vous, comment ça se passe? Il y a rien de spécifique en fait, c'est juste au moment du recrutement d'en parler, d'accompagner, de vous en parler pour pouvoir accompagner selon sa problématique
ouais.
Et puis c'est tout quoi.
Ouais, par exemple, moi typiquement là j'ai un jeune en situation de handicap où ça nécessite du coup un aménagement d'horaire parce qu'il a des impératifs de rendez-vous médicaux et aussi sur sa fatigabilité. Et alors que c'est un pilier, enfin, il envoie la patate ce jeune. Et ce qui est génial, c'est qu'il envoie un truc hyper positif. Et ce qui a été un moment assez touchant là, de cette rentrée, on fait un exercice avec les volontaires le premier jour, c'est attendre, craindre, question par rapport à mon service civique et on y répond. Et ce jeune avait mis en crainte sur son post-it, j'ai peur que mon handicap soit un frein pour mes collègues durant leur service civique.
Ouais,
leur Et en fait, donc ils avaient écrit la veille et en fait on y répondait le lendemain et du coup... excusez-moi, ce jeune, je l'ai pris à part et on en a discuté. Je lui ai dit, je me sens pas du tout légitime de répondre à ta place, parce que souvent, c'est les coordinatrices qui répondent. Et je lui ai dit, moi, je trouve que c'est à toi d'y répondre, parce que justement, t'es pas en situation de victime, t'en pars très librement, tu blagues là-dessus, t'as pas de tabou, en fait. Et du coup, c'est tenu un vrai échange entre tous ces jeunes et c'était un moment assez, assez magique. Et même pour lui, il s'est dit... en fait, c'est moi qui mets des freins et qui m'auto-censure par rapport à ça. Donc,
oui, c'est aussi de dire c'est ok, t'as ta situation qui
c'est
est
ça.
Comme ça. En fait,
c'est ça.
Et justement, elle a peut-être aussi, la personne, elle peut avoir beaucoup de choses à apporter. Et même pour les jeunes qui, eux, ne vivent pas cette problématique au quotidien. Enfin, c'est justement, tu parlais de créer du lien. Là, c'est. On est en plein dedans dans ce que tu dis quoi. J'en profite pour on passera à autre chose mais pour mettre la petite pause musicale.
Tout à fait.
Alors qu'est-ce que tu nous as proposé?
Alors justement c'est un collègue d'Unicité qui m'a fait découvrir cette chanson. Je me suis dit que c'était dans la thématique.
Dans le thème.
Pour le point enviro, je me déplace exclusivement à vélo et j'avoue c'est pas très responsable mais je ne peux pas le faire sans musique et c'est la musique que je mets en boucle sur mon vélo quand je suis dans les rues de Marseille.
Donc tu pédales à Marseille.
Ouais, c'est ça. C'est I Love Makonnen. Donc c'est un artiste qui a été découvert par une chanson de Drake. Et là, c'est l'original sans la version de Drake. Il avait repris son sample. Donc ça, c'est l'artiste s'appelle I Love Makonnen. Et le titre s'appelle Sneaky Lady. Voilà.
Merci Victoire, on écoute ça. À tout de suite.
À tout de suite.
Now she's a real sneaky lady. She'll be stealing your heart. Oh, it's not I look kinda young. Well, now look at me, she got me feeling kinda old. No, oh, so thought I wanna be back with her, but oh, oh, oh no, she been dancing outside and she been doing real good. She got herself a new ride and she in a mood about the hood. Well, she's a real sneaky lady and she'll be stealing your heart. And she'll be stealing your love. Oh, it's not your fault. She's been lying from the start. And so you met her outside. And now you're thinking it's good. You could be with her. Well, I wish you could. Because she turns into fire when you're in the room. And she's been doing great things that you don't mention to your friends or your mom. Oh, or your Maya. You've been dancing real nice until today. You've been shivering in boots cause you know it works. You don't know what you work, you know how she does. She's been all in your mind and she run through your glove. But she's the real sneaky lady. Yeah, she was stealing your heart. Oh, it's not your fault. She's been lying from the start. Now she's a real sneaky lady. She ain't coming tonight. She ain't coming here. Cause she's somewhere far, causing tears. Cause she's a real sneaky lady. She'll be breaking their hearts. Oh, it's not their fault. She's been lying from the start. I guess it's all my fault. They say I broke.
De retour sur l'émission Écoforum au 88.4 avec Victoire pour présenter Unicité. Et juste avant cette petite pause musicale, nous avons parlé des personnes qui étaient en situation de handicap et qui voulaient devenir volontaires. On peut désormais parler des missions qui peuvent exister sur aller aider ou interagir avec des personnes qui sont en situation de handicap. Victoire, est-ce que ça existe à Unicité ?
Eh bien oui, ça existe totalement. Alors sans faire un catalogue, parce qu'on a vraiment une vraie pluralité de missions, on a une mission qui s'appelle Supporter. Ce nom va changer parce que ça parle pas trop. C'est aidant, aider. Mais c'est un lien quand même avec le handicap, même beaucoup. Aujourd'hui, c'est un programme qui a été créé il y a 3 ans maintenant, avec un enjeu de santé. En fait, les aidants familiaux, c'est un enjeu de santé publique. Donc, les enjeux de santé publique, c'est des plans gouvernementaux sur 5 ans qui se mettent en place par le gouvernement où ils disent le handicap, c'est un enjeu de santé publique. Donc, il y a eu un plan gouvernemental et les aidants familiaux en est un. Et un familial familial, c'est compliqué pour moi, je l'ai dit toute la journée.
En plus, bref. En fin de journée, mais ça,
ouais, c'est compliqué. Merci. Et du coup, moi, je vais vous raconter ça. En fait, forcément, là, on est 4 dans cet espace-là. Je suis sûre que soit ça nous touche personnellement directement, soit ça touche un membre de notre famille, enfin un membre très proche de notre cercle social. Un aidant familial, c'est une personne qui se retrouve à devoir aider un membre de sa famille, soit en situation de handicap, donc lié depuis toujours, c'est une naissance, ou un accident de la vie qui le rend, paraplégique, etc., en tout cas dépendant. Ça peut être lié à des maladies dégénératives aussi, la maladie d'Alzheimer, ou aussi tout simplement la vieillesse, la sénilité, les pertes de mémoire, etc. Et donc, le lien de famille qui vous unit initialement, mari-femme, femme-femme, homme-homme, époux-époux, enfant-parent, parent-enfant, nièce, tante, etc. Quand on est dans cette situation-là, on devient son infirmier, son infirmière, on fait toutes les démarches administratives, on lui fait ses courses, etc. Et s'ensuit des conséquences sur la santé de l'aidant familial. En fait, on pense avant tout à la personne. Donc, du coup, peut y avoir des conséquences sur la dépréciation de notre santé. Il y a des études, des statistiques où, alors, j'ai pas envie de vous dire des bêtises sur les pourcentages, donc voilà. Mais à partir d'un certain âge, quand tu es aidant familial, tu as des impacts sur ta santé. Il peut y avoir forme de dépression. Aussi, ça somatise sur ton corps, donc tu peux développer des formes de maladie. Et du coup, des formes de maladie, il y a aussi sur la relation initiale, parce que de venir t'occuper au quotidien d'une personne, ça peut avoir un impact si c'est ton enfant, ton parent, ton époux, ton épouse. Ça peut avoir des impacts aussi discriminatoires sur l'emploi. Tu dois réduire peut-être tes heures, peut y avoir des mises au placard pour certains. Enfin, c'est un vrai enjeu de santé publique. Et l'idée des volontaires de cette mission de service civique, c'est pas du tout de prétendre à être une auxiliaire de vie, un infirmier, etc. Ça, ce sont des métiers. L'idée des volontaires, c'est d'apporter une bouffée d'oxygène à ces gens-là.
Donc, on appelle le répit aujourd'hui.
Exactement, le répit. Donc, soit d'aller directement dans le foyer de ces familles-là, soit, par exemple, là, on est à la Friche, d'ailleurs. L'année dernière, il y avait des volontaires qui avaient pour habitude d'aller avec un ado qui est Asperger. Donc, c'est un syndrome qui est lié aux troubles du spectre autistique. Et avec sa maman, tous les mercredis, elle allait taper des paniers de basket à la Friche. Et en fait, s'en est suivi une super relation avec les jeunes volontaires et cet ado qui, à la fin, il en avait marre de sa mère. Il voulait juste être... c'est un ado, il a 17 ans, au-delà d'être autiste. Et du coup, ils ont pu faire, à la fin de l'année, ils ont fait une sortie en kayak de mer, par exemple. La maman était sur la plage et lui, il était avec, c'est un peu ses potes, quoi, ses potes volontaires. Allez, hop, on y va et tout. Et en fait, les volontaires ont, au-delà de ces missions-là, une vraie sensibilisation au handicap. Il y a tout un enjeu aussi pour eux de recenser avec la plateforme J'accède tous les lieux accessibles pour les personnes en situation de handicap. Ils ont des sensibilisations par rapport à ça. Ils découvrent le handisport aussi. Ils découvrent aussi, parce qu'encore une fois, être en situation de handicap, t'es pas une victime. Souvent, dans le handicap, tu nais, tu es, tu meurs en situation de handicap et t'es pas une victime toute ta vie. Donc c'est aussi rencontrer des partenaires absolument incroyables qui sont en même en situation de handicap, qui ont créé des jeux adaptés pour des personnes déficientes visuelles par exemple, qui font des formations aux volontaires qui sont eux-mêmes en situation de handicap et voilà, par exemple pour cette mission supporter.
Là sur le handicap, tu nous as vraiment montré le rôle primordial du lien social que Unicité arrive à construire. Est-ce que tu as le sentiment qu'avec la période du Covid qu'on a traversé, qu'on continue à traverser, ce rôle a été encore plus renforcé dans la capacité à être un peu des facilitateurs de vivre ensemble. Alors là, on a parlé des personnes en situation de handicap. Peut-être que vous avez d'autres missions qui permettent de vous connecter avec les personnes qui peuvent être un petit peu isolées et où vous êtes là justement pour apporter la petite étincelle qui fait que ça crée des ponts.
Totalement. C'est totalement. Par exemple, alors... On a tous vécu le premier confinement qui a été là pour le coup un arrêt total des activités et même pour les volontaires. Enfin voilà, c'était consigné chez soi et voilà. Mais une mission assez phare d'Unicité sur Marseille, ça existe depuis, je crois que l'antenne existe à Marseille. C'est la mission Solidarité Senior. C'est une mission qui lutte contre l'isolement des personnes âgées. Et du coup, il y a une diversité d'acteurs associatifs, que ça soit des EHPAD, des associations comme le Petit Frère des Pauvres, etc. Donc en fait, les volontaires, sous le même principe que supporters, rendent visite à domicile à des personnes âgées isolées. Et en fait, on a des prescripteurs, donc ça peut être des mutuelles ou des associations comme le Petit Frère des Pauvres qui du coup nous envoient des personnes âgées c'est des liens absolument incroyables qui se créent entre les jeunes et les personnes âgées et souvent on le sait après un petit peu, on a beaucoup de volontaires qui deviennent anciens volontaires et qui gardent le lien avec ces personnes-là, qui continuent de les appeler, d'aller les voir, etc. Pendant le premier confinement, ces personnes âgées là, ça veut dire qu'elles se retrouvaient toutes seules. Ce premier confinement a eu un impact aussi sur leurs soins, sur les visites des personnes, etc. Et donc, du coup, tout de suite, c'est mis en place où les jeunes appelaient à distance les personnes isolées. Et du coup, il y a eu une vraie conscience collective par rapport à ça et davantage de fonds, que ce soit des subventions, des initiatives associatives, des développements d'associations, où en fait le contexte sanitaire a davantage isolé ces personnes-là, a augmenté le nombre de précarités aussi, que ce soit économique ou d'isolement social. Et du coup, ça n'a jamais été aussi utile et essentiel que de s'engager maintenant. Et après, il y a d'autres secteurs aussi, mais pour en revenir à ta question, initiale, Marin, quand il y a eu le confinement, il y a eu du sens. Pareil, il y a eu la deuxième vague de confinement, où là, c'était un confinement, on va dire, un peu plus modéré. Alors, je mets des guillemets, parce que, voilà. Par exemple, sur certaines missions, les volontaires ne pouvaient pas s'y rendre comme d'habitude. Et bah du coup, on a mis à l'œuvre tout le monde, où les volontaires, même s'ils avaient leur mission thématique, on va dire, ils se sont engagés auprès du Secours populaire pour aller faire des distributions de colis alimentaires, du tri de colis alimentaires, les Restos du Cœur. Il y a eu de plus petites associations, des initiatives locales, citoyennes. Et du coup, ça a été très impactant aussi pour cette promotion-là de l'année dernière, parce que y en a peut-être, c'était la première fois qu'ils faisaient face à des centaines de personnes qui font la queue pour recevoir un don alimentaires. Précarité alimentaire, mais moi, il y a la banque alimentaire, ça a été très impactant. Chaque année, les volontaires participent à aller dans les magasins et à aider les bénévoles, qui sont souvent des personnes âgées. Big up aux bénévoles de la banque alimentaire, parce que ce sont souvent des personnes retraitées et qui font le pied de grue dans des magasins 48 heures de suite pour récolter des dons. Donc on mêle la jeunesse pour leur filer un coup de main. Et l'année dernière, on ne l'avait jamais fait les autres années. En fait, c'est une énorme machine, la banque alimentaire, mais dans le bon sens du terme. Oui. C'est que derrière, ils ont une plateforme, un entrepôt. Et même moi, j'étais impressionnée où en fait, tous les camions sont ramenés à l'entrepôt et là, on trie les dons. T'as l'impression d'être dans une entreprise, c'est des énormes bacs avec... T'as le bac sauce tomate, t'as le bac riz, t'as le bac... Mais c'est des centaines et des centaines
C'est
très impressionnant. Mmh. Et tu vois, cette chaîne humaine de solidarité. Alors, il y a eu les jeunes, des moins jeunes. Il y a eu de tout horizon sociaux, de tout âge. Et pendant une semaine, t'es comme un acharné là-dessus. Et ça a été hyper impactant, quoi. Autant salarié que volontaire. Hein. C'était incroyable. Mmh.
Là, tu nous montres la grande diversité de ce qui est proposé en termes d'activité par Unicité. J'ai le sentiment que tu parlais des ponts qui peuvent être créés avec les personnes âgées qui sont isolées, mais ça peut aussi être pour les jeunes eux-mêmes qui sont plongés au cœur de la machine, qui peuvent se sentir profondément utiles dans cette mission, surtout quand on est un peu désœuvré parfois à se demander ce qu'on peut faire quand on voit les événements de ce monde. Et il me semble également que vous proposez des missions où vous êtes aussi en lien avec des réfugiés pour ce qui concerne les personnes âgées. Donc finalement, c'est pas que du lien social qui est fait avec les personnes d'un plus grand âge, mais aussi celles qui viennent d'arriver sur le territoire, qui peuvent être dans des situations plus difficiles, et où vous arrivez à connecter les sujets entre eux, donc c'est assez intéressant.
Oui, on arrive totalement à connecter les sujets entre eux, que ça soit aussi, chaque coordinatrice, nous par exemple à Marseille, on est 5 coordinatrices, on a 5 équipes différentes. Et moi par exemple, j'ai qu'un programme, il y a des coordinatrices qui ont plusieurs programmes. Et l'idée, c'est pas chacun a le nez dans son truc, on essaye de connecter. Par exemple, il y a une mission, c'est de la fracture numérique. Donc c'est des volontaires qui proposent des ateliers numériques sur Marseille, c'est beaucoup des personnes âgées, mais il y a aussi quand le français n'est pas ta langue maternelle ou t'es pas habile de cette langue-là, tu n'es pas francophone, du coup tu es allophone, c'est souvent corrélé ça peut être aussi se traduire par de la fracture numérique. Et on a aussi des jeunes qui peuvent être en situation de fracture numérique. Moi, par exemple, l'année dernière, j'avais un volontaire qui était en situation de fracture numérique et du coup, qui a eu des ateliers de la part de ses collègues de ce programme-là, ne serait-ce que pour se faire ouvrir des droits à la CAF. Aujourd'hui, la dématérialisation, c'est un enjeu énorme. Aujourd'hui, pour pouvoir jouir de droits, si tu n'es pas à l'aise avec ton compte CAF, ton compte Amélie, il y a encore une semaine, je disais Amélie, tout le monde se foutait de ma gueule.
Enfin, voilà.
C'est encore plus excluant déjà, t'es dans cette situation-là. Il y a carrément des ponts qui se font, quoi. Carrément.
Donc là, pour ça, vous travaillez avec Emmaüs Connect ou c'est vraiment une entité à part ?
Non. Emmaüs Connect, même en termes national,
Parce que pour bien comprendre, finalement, parce que je me dis, voilà, ça peut être un petit peu flou aussi pour nos auditeurs.
Tout
donc, Unicité, finalement, regroupe un ensemble, un tissu associatif.
Totalement.
Et donc, derrière, un volontaire ou un futur volontaire qui souhaiterait intégrer une mission. Donc, en fait, finalement, il passe par vous, mais il va travailler pour... Il va faire une mission pour une association.
Alors, pour une association, en fait, on a deux modèles à Unicité. On a un modèle, nous, notre modèle cœur, comme ça qu'il a été créé, c'est une équipe de volontaires coordonnée par une ou un salarié. Et on a un autre modèle où c'est un marché public, où en fait, Unicité, force de son expertise du service civique dans la diversité, etc., propose son agrément à des structures, à des plus petites structures. Et du coup, l'idée, c'est d'aller essaimer le modèle Unicité à plus petite échelle dans des structures. Donc, par exemple, on prête l'agrément, on identifie un salarié de la structure qui est le tuteur, on l'aide dans ses recrutements, etc., de volontaires. Et l'idée, c'est d'avoir un binôme ou un trinôme avec un respect de diversité, etc., qui vont réaliser des missions en lien avec les besoins de l'association, en respectant le modèle Unicité. Et nous, en fait, on est cœur. En gros, nous, par exemple, moi, je coordonne un programme qui est en lien avec mettre en place des ciné-clubs et des ciné-débats auprès d'établissements scolaires, c'est collège et lycée. Et du coup, les volontaires... Je suis leur référente, mais dans leur réalité de terrain, ils peuvent peut-être au cours de 8 mois faire 10 à 15 établissements différents. Et du coup, leur premier partenaire, ça va être l'éducation nationale.
D'accord. Et donc du coup, parle-nous justement de ta mission avec les ciné-débats.
Alors, je vais me calmer parce que je peux en parler pendant des heures. Non, je vais être très synthétique. Cinéma et citoyenneté, c'est un programme qui est appuyé par le CNC. Donc, le CNC, c'est en gros le pape de l'audiovisuel français, en fait, de ta grosse émission de danse sur TF1, je peux citer, ton film d'auteur. En fait, c'est unique en France comme modèle. Tu as une taxe qui doit être reversée à ce qu'on appelle le CNC. Et le CNC, avec cette taxe, a du budget et du coup peut financer des plus petits films qui ont moins de moyens ou des dispositifs. Par exemple, il y a des dispositifs scolaires pour permettre aux établissements scolaires d'aller au cinéma et aussi de faire vivre les petites salles d'arrêt d'essai. Et ils ont créé un autre dispositif, qui est un gros dispositif, qui s'appelle Cinéma et Citoyenneté. Et là, en complémentarité de dispositifs où les établissements scolaires se rendent dans les cinémas, nous, on amène le cinéma dans les établissements scolaires par les volontaires. Les volontaires, ils ont... en droit de diffusion, ils peuvent diffuser à peu près une vingtaine de longs métrages et plus de 350 courts métrages. Et il y a deux enjeux là-dessus. C'est l'enjeu de donner aussi... Moi, je ne viens pas du monde de la culture à la base. Je viens de l'animation, je viens de l'éducation populaire. Quand j'ai appris que j'avais un CDD en lien avec le cinéma, j'étais là. Mais en fait, les gars, moi, mon film préféré, c'est Twilight. mes partenaires, ça va être des gens... Je voyais la culture avec un grand C. J'ai appris à déconstruire ça aussi. J'avais moi-même des préjugés là-dessus. Et ce programme, c'est mon petit bébé maintenant. Et au-delà de ça, c'est aussi de... ce qui est intéressant aussi, c'est renvoyer aux jeunes que... En fait, culture avec un grand C, il faut déconstruire ça. On s'en fout que tu ne sois pas amateur de cinéma d'arrêt d'essai. Si tu ponces Netflix 12 heures par semaine, on s'en fout. Tu as aussi quelque chose à apporter, tout autant à apporter. Si c'est plus l'aspect rencontrer du public, etc., bah vas-y, fonce sur ce programme-là. Et du coup, il y a cet enjeu de donner un peu cette cinéphilie aux jeunes, mais aussi, surtout, de leur permettre un espace de liberté totale sur des sujets qui sont forts de sens. Donc, ça peut être... donc, en fait, les volontaires cinéma citoyenneté, ils apprennent à être des animateurs débat. Animateurs débat, c'est une posture, permettre un cadre hyper bienveillant où chaque jeune, par exemple, je ne sais pas, moi, je fais un débat sur le genre, la question du genre, ou les stéréotypes hommes-femmes, par exemple, les discriminations hommes-femmes. Et bah, l'idée, c'est de faire entendre les opinions de chacun et que pas que les jeunes parlent avec les volontaires, mais qu'ils parlent entre eux et se confronter à des opinions. Que ça soit, et ça peut être des sujets houleux, comme des sujets un peu plus fluides. Mais l'idée, c'est vraiment de créer un vrai espace de liberté. Et souvent, ça marque les jeunes élèves.
Oui, c'est inévitable.
Et on a déjà eu maintenant là, des jeunes qui viennent en service civique et qui te disent « Moi, je veux faire ce programme-là parce que cinéma citoyenneté, moi, j'avais des jeunes qui faisaient ça dans mon lycée. J'ai trop kiffé. C'était génial. » Ou moi, j'ai des profs qui te disent « Mais qu'est-ce que font tes Victoire, qu'est-ce que font tes jeunes auprès de mes élèves ? Ça fait 2 ans que je l'ai dans ma classe. Je n'ai jamais entendu parler. » Et en fait, lors de ciné-débat avec les jeunes, c'est la première à prendre le mic et à dire son opinion, quoi. Donc... Moi j'y crois dur comme fer, que ça soit l'asso, les valeurs et cette jeunesse qui permet de faire bouger les choses, quoi.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on entend toute la passion
que tu as
à parler de la mission que tu animes. Et là, pour cette dernière partie, avant qu'on rende l'antenne, je vais me replonger dans la peau d'un volontaire pour te poser une dernière question. Mm-hmm. Du coup, si on a bien compris, on peut avoir entre 16 et 25 ans, on peut être... début d'études, pas d'études, reprise, pause. On peut être intéressé par l'environnement, la santé, les ciné-débats, les questions de fracture numérique, d'aide aux personnes âgées ou handicapées. Donc il y a une large possibilité d'action et avec des accompagnements qui sont pertinents selon ce qu'on veut faire. Mais alors là, on est aujourd'hui le 3 novembre 2021. Mm-hmm. Si jamais... je suis dans cette quête d'un engagement. Est-ce que, et que j'écoute la radio, est-ce que je peux venir toquer à la porte d'une cité dès demain pour dire que ça m'intéresse de rejoindre votre mission ?
Tu peux totalement venir toquer à la porte d'Unicité. Alors, déjà, il y a plusieurs choses. Il y a le site du service civique, servicecivique.gouv.fr, où il y a, tu tapes où tu veux faire un service civique, ton secteur, etc. Et tu as des offres de service civique. Donc, tu as quand même pas mal d'offres d'Unicité sur ce site-là. Après, il y a notre site internet Unicité Marseille, où on indique, on ne sélectionne pas sur compétences. La première étape obligatoire, c'est de participer à une réunion d'information collective. Aujourd'hui, nous, Unicité à leur cœur, donc les coordinatrices qui accompagnent directement des volontaires, on marche par système de promo. Donc là, on vient juste de commencer la nouvelle promo. Il reste encore des places. Donc moi, ce que je conseille, c'est venez comme vous êtes. C'est comme le McDo. Bon, c'est pas très écolo, mais on adore dire cette phrase. Nous, on se situe au 13 boulevard d'Athènes. Vous venez à des heures raisonnables, donc à 9h, 17h30. Vous venez toquer à Unicité, vous dites pas voilà... j'ai entendu une super émission sur Radio Galère, ça m'intéresse, etc. Personne ne vous fermera la porte, vraiment. Et du coup, on vous dira les informations. Si c'est trop tard pour cette dynamique de grosse équipe, il y a toujours nos collègues sur Unicité Relais, du coup, où en fait, c'est des missions en continu dans des structures. Donc voilà. On a un super Instagram aussi qui s'appelle Unicité Marseille. Vraiment, que ça soit sur des infos, sur les missions des volontaires, mais aussi sur les infos, il reste encore des places, des trucs très pratico-pratiques. On est quand même assez consciencieux de mettre ces informations-là. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai été...
Très bien, si, j'espère que vous allez pouvoir trouver un... Alors du coup, vous cherchez encore des volontaires
carrément.
Vous avez
2 ans. Carrément sur... cinéma et citoyenneté, les aidants, les aider, sur l'environnement, il reste des places et sur...
J'ai vu qu'il y avait une thématique sur l'entrepreneuriat social.
Alors, entrepreneuriat social, plus à Marseille.
D'accord.
Mais moi, c'est un programme que j'avais fait quand j'étais volontaire. Tu vois, ouais. Unicité a changé un peu ma direction professionnelle également. C'est un programme qui s'appelle Rêve et Réalise. Et du coup, là, l'idée, c'est que le volontaire, le jeune, le grand, voilà, il soit acteur de son propre service civique. Donc, si tu as une initiative, une idée de projet, peu importe, on s'en fout, on ne te demandera jamais un business plan ou quoi que ce soit. Moi, quand j'ai fait ça, je savais juste que je voulais parler des mamans célibataires qui avaient des enfants en situation de handicap. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire un court-métrage là-dessus. J'y connaissais rien. Mon portable est pété. Enfin, je suis nulle en tout ce qui est numérique, en tout ce qui est... Je ne sais pas prendre de photos. Enfin, c'est une horreur. Et via Rêve et Réalise, bah, j'ai réalisé mon projet. Et j'ai pu faire un court-métrage. Donc, Rêve et Réalise, c'est permettre aux jeunes d'être acteurs de leur service civique en proposant eux-mêmes leur projet. Ça peut déboucher sur, créer sa propre association. Et du coup... Il y a tout un accompagnement pour ces jeunes-là sur l'entrepreneuriat social, du coup. Et on a un autre programme qui s'appelle Diffuseur de solidarité à Marseille. Et là, en fait, il n'y a pas de thématique précise. C'est une équipe de 8 volontaires qui sensibilise au micro-bénévolat. Donc, par exemple, ils vont rencontrer vraiment plein d'associations différentes. Ils vont poncer Marseille. Et l'idée, c'est que ça soit sur l'écologie, sur, l'enjeu de la sensibilisation au don du sang, ce genre de choses. Ils vont monter des projets avec des associations. Et l'idée, c'est d'y impliquer les citoyens, en fait. Donc, du coup, c'est peut-être... Il n'y a pas assez de dons du sang dans un quartier. On va organiser la fête du don du sang. Et du coup... dans un quartier précis, et donc on va les sensibiliser là-dessus, et on va dire, toi, t'es habitant du quartier, ça te concerne, cette cause-là, est-ce que tu veux nous aider à faire cet événement-là? Et c'est vraiment donner le pouvoir aux citoyens, on s'en fout que tu sois pas de l'associatif, on s'en fout que t'aies pas les appétences, du moment que t'as envie, t'es capable de faire des choses. Mmh. Et donc, voilà. Et ça peut sensibiliser à l'entrepreneuriat social, du coup.
On l'aura compris, Unicité est finalement un catalyseur de l'engagement des jeunes au service d'une société plus accueillante, quelle que soit la grande possibilité d'engagement et de mission. Et on a bien entendu aussi qu'il y avait un appel à vous rejoindre si jamais vous voulez vous engager. Donc c'est Boulevard d'Athènes, pour le rappeler. On va finir ce soir cette émission. Merci beaucoup.
Merci à vous, Victoire.
Trop cool de l'invitation. Ouais, j'ai trouvé ça très agréable. Tu es très passionnée par ce que tu fais et ça donne vraiment envie de rejoindre l'équipe.
Carrément.
Donc merci beaucoup pour ta venue.
En tout cas. Et puis comme on dit, volontaire un jour, volontaire toujours. C'est pas marrant.
Tout à fait. C'est une superbe façon de finir cette émission. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.